Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous invite dans un premier temps à vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Après. Dieu notre Père, nous sommes encore une fois de plus rassemblés dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta voix. Nous voulons faire monter vers toi toute notre louange, toute notre adoration. Merci de les agréer. Nous te sommes reconnaissants déjà parce que tu nous as devancés dans ce lieu. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous fais encore une grâce de pouvoir nous réunir en toute liberté pour pouvoir te prier, te louer. Nous sommes bien dans ta maison. Nous nous y sentons à l'aise. Et c'est là que vraiment nous ressentons aussi ta présence. Merci de nous bénir, notre Père. Merci d'agréer ce culte que nous voulons t'offrir. Au nom de Jésus. Amen. Savons encore ce matin, c'est une grâce que nous avons de pouvoir nous réunir. Et nous voulons l'exprimer à Dieu de tout notre cœur. Qui c'est qui peut dire à Dieu, « Dieu, tu es grand. » Dieu, tu es grand. C'est « Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es digne de louange, magnifique. » C'est ce premier chant que nous voulons interpréter à la gloire de Dieu. « Tu es grand Seigneur. » Nous savons que le Seigneur, en fait, il est allé à la croix. Il est allé à la croix pour chacun de nous. Il a porté nos péchés. Il a été méprisé. Tout cela à cause de nous. Alors que nous étions pécheurs, il a porté le poids de nos fautes. Il a fait tout cela pour chacun de nous. On peut très bien se dire, non, ce n'est pas pour nous, mais il l'a fait pour chacun de nous. Qu'on le veuille ou non, il l'a fait pour chacun de nous. Et nous devons au moins lui rendre reconnaissance. La seule chose qu'il nous demande dans tout cela, c'est de l'accepter. Il ne nous a pas demandé de payer quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Il nous demande seulement de l'accepter. Déjà en anticipation par rapport à cet après-midi, Whitson, en fait, il a déjà accepté. C'est ce qu'il va nous témoigner aussi cet après-midi. Donc, homme de douleur, méprisé, habitué à la souffrance, il a payé nos fautes à notre place. Il est allé à la croix à notre place pour nous. Nous allons chanter le 756, homme de douleur. Dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dans Acte 13, le verset 22, « Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Nous aurions très certainement aimé que Dieu parle de nous de façon aussi élogieuse. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as vu ma servante qui s'éloigne du mal, qui est intègre, qui est fidèle, qui est droite? Est-ce que tu as vu ma servante, mon serviteur, selon mon cœur? On aurait très certainement aimé que Dieu parle de nous dans ces termes. Mon serviteur qui ne fait pas de compromis, qui ne cherche pas à se conformer au monde. Mon serviteur qui aime ma parole. Mon serviteur qui craint de pécher contre moi. Nous aurions aimé que Dieu nous parle de nous de cette façon. Mais quand on regarde la vie de ces hommes, en fait, c'est des personnes qui avaient une vie, qui avaient une communion, une relation avec Dieu. Quand on lit tous les psaumes de David, on voit comment est-ce que David aimait Dieu, comment est-ce qu'il chérissait Dieu, comment est-ce qu'il avait souci de plaire à Dieu. Et David répandait son cœur, David adorait Dieu, David parlait à Dieu, comme il aurait pu parler à quelqu'un d'autre. Donc la vie qu'ils avaient, c'est une vie d'adoration, une vie de prière. Et à travers ce chant que nous allons chanter, nous voulons vraiment exprimer à Dieu l'adoration que nous avons pour lui. Nous voulons vraiment l'adorer. Nous voulons vraiment le remercier, lui exprimer tout ce que nous avons. Je veux t'adorer.
Ma vie à tes pieds, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a raison.
C'est la raison pour laquelle je vis.
C'est la raison.
C'est la raison pour laquelle je vis.
C'est la raison.
C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
Faites monter vers Dieu votre adoration. C'est la raison de vivre. Dieu. Notre frère Raymond, dans sa prière, indique effectivement, avant que nous connaissions, que nous rencontrions Dieu, nous étions dans les ténèbres. Effectivement. Et notre frère Claude aussi, il disait à peu près la même chose. Et c'est vrai que tant qu'on ne connaissait pas Dieu, on se sentait, on s'estimait bien, mais nous étions réellement dans les ténèbres. On peut se persuader qu'on est bien là où on est, mais tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, on vit dans les ténèbres. Et la lumière qui est Jésus-Christ, lorsqu'elle rentre dans le cœur de quelqu'un, cette personne est transformée. Nous avons vraiment besoin de cette lumière qui transforme les vies. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous véhiculons cette lumière. Et si nous-mêmes, nous mentons, nous trichons, nous volons, notre lumière, elle est voilée. Et on ne peut pas apporter cette lumière à qui que ce soit. Nous apportons plutôt un mauvais témoignage. Si nous faisons exactement les mêmes choses que ce que le monde fait, que Dieu dénonce dans le monde, nous ne pouvons pas apporter cette lumière au monde. Nous savons et nous voyons que la société, elle va mal. Ce n'est pas une grande nouveauté que je vous apprends là. Et même dans certains cas, sur certains espaces où on devrait être sociable, on va dire, les réseaux sociaux, où les gens devraient être sociables, on se rend compte qu'ils sont de moins en moins sociables. Les gens décident de taper quelqu'un, mais ils préméditent de filmer pour montrer la chose. Les gens deviennent, comme Eric le disait il y a 15 jours, ingénieux au mal. Une semaine deviennent ingénieux au mal. Les gens font des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et vraiment, le monde a besoin de cette lumière qui est Jésus. Nous avons vraiment besoin de porter cette lumière au monde. Nous allons chanter ce chant, Lumière du monde.
Pour les yeux, je vois.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est monde, tout en toi est merveilleux pouvoir. Je ne pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi.
Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons laisser la place à Teddy, le serviteur, qui va te porter la parole en ce matin.
Merci Père éternel parce que tu prends soin de nous. Et nous savons que tu es là, présent parmi nous, par ton esprit, par ton amour qui nous unit. Et encore aujourd'hui, tu désires nous parler, nous communiquer quelques grâces. Nous communiquer, Seigneur, des enseignements afin que nous puissions encore grandir. Puisse-t-il être encore le cas ce matin à travers ce message? Je veux venir avec humilité devant toi. Vraiment, Seigneur, que tu puisses encore utiliser comme tu le désires, afin de nous parler. Nous voulons être à tes pieds, comme nous venons de le chanter. Et que nos vies soient comme un parfum de louange et d'adoration. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Voilà. Le texte de ce matin se trouve en acte 3, et nous allons lire du verset 1 à 11. Dans ce texte, il est question d'un paralytique qui reçoit la guérison. Et là, ce texte-là se situe juste après l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres, les missionnant pour pouvoir aller vers les nations, en commençant par la Judée, Jérusalem, et ensuite Samarie, et ensuite pour les extrémités de la terre. Et dans ce texte-là, nous voyons Pierre et Jean qui débutent ce ministère. Et ce matin, j'aimerais, tout au long de ce temps, nous poser quelques questions. Et la première question, c'est qu'est-ce que nous avons à offrir. Le monde actuel interroge la foi, il me semble. L'actualité fait que la religion en elle-même est remise en question. C'est quoi l'utilité de la religion? Et là encore, nous avons vu dans les actualités ce qui s'est passé. Un professeur qui a été décapité. Pour des raisons aussi religieuses. Mais avec la pandémie actuelle, les médias focalisent, regardent sur ce qui s'est sur l'église de Mulhouse. Ils disent, mais c'est de leur faute. Dans cette première vague, c'était, mais c'est de leur faute. Le rassemblement, au fait, mais le rassemblement, la religion ne nous apporte que du malheur. Ils propagent ce virus. De notre côté, il y en a d'autres qui croient et qui... Voilà. Et on voit que, tandis qu'on nous interroge, la société même s'interroge. Avec cette pandémie, la société même s'interroge. Mais d'où ça vient? Et on cherche des réponses. Le comité scientifique cherche une réponse à ce virus. On veut trouver un vaccin. Cela, c'est la course effrénée au vaccin. Certains de l'Église disent, mais c'est la fin du monde, Jésus revient. Là aussi, c'est une réponse. On cherche la solution, Jésus revient. Mais quoi qu'il en soit, toutes les questions qu'on peut se poser, on remarque une chose, c'est que notre société actuellement, elle est boiteuse. On remarque que notre société, elle est comme paralysée. Les choses ne tournent pas rond, les choses ne vont pas comme d'habitude. Mais dans ce tableau que nous venons de dépeindre, je crois que la parole de Dieu est là pour nous montrer la marche à suivre et le modèle à suivre. La parole qui dit que cette parole est là pour nous diriger, pour nous façonner, pour nous corriger. Et comme des marins dans la mer, il nous faut regarder au cap, mais revenir à ce qui est prescrit pour rediriger. Nous rediriger, nous conduire. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous proposons? Et ce matin, nous, avec ce texte, voulons regarder un peu encore à ce qui s'est passé dans l'église primitive. Quand je dis l'église primitive, primitive a pris un sens un peu archaïque. Primitif, c'est ce qui est dépassé. Mais nous, dans la Bible, nous regardons l'église primitive, c'est l'église première, celle qui a été le modèle, celle qui a tracé la route. Acte 2 nous dit, et continuer à persévérer. Mais selon l'enseignement aussi, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'instruction des apôtres. Qu'est-ce qui nous est rapporté de l'église? Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer à nous? Afin de pouvoir aussi être celles et lumières de ce monde. Être des personnes qui donnent de la saveur. Est-ce que notre foi, pouvoir que notre foi soit contagieuse? Le pasteur disait une fois dans une prédication, on peut être deux types de chrétiens. Celui est le chrétien thermomètre et le chrétien thermostat. Et le chrétien thermostat, c'est celui qui régule, qui ne se contente pas de rapporter ce qui se fait, qui ne fluctue pas en fonction de ce qui se passe de l'extérieur, mais c'est lui qui a une foi contagieuse. Et nous voulons voir ce matin cette foi qui transforme, cette foi active, cette foi qui transforme. Alors nous voulons lire la guérison de ce paralytique en acte 3, verset 1 à 11. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y apporter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, Il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Dessous, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit. Ainsi marchait et louait Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon. Ils étaient stupéfaits. Jusqu'ici notre lecture. Et dans la suite, nous allons voir Pierre expliquer ce miracle, disant que ce n'est pas de son fait. Lui, ils sont que de simples hommes, mais que ce Jésus qu'on a crucifié, c'est dans la foi en ce nom-là que cet homme paralysé reçoit sa guérison. Comme je dis, nous voulons parler de cette foi qui transforme. Et alors, je vais prendre quelques éléments de ce texte-là pour montrer comment la foi est transformée. Mon premier propos sera d'attirer l'attention sur un des acteurs. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Difficile de ne pas faire un parallèle entre ce que Luc nous raconte ici en Actes 3, et ce que Luc avait raconté en Luc 22, l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 54, pour ceux qui le veulent, 54 à 62. On parle du reniement de Pierre. Pierre est celui qui a renié Jésus. Et là, on voit, comme je l'ai dit, on est après la résurrection, Jésus est parti, le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour accomplir leur mission. Et eux, ils vont au temple. Ils vont prier les 3 heures de l'après-midi. Et cet homme, il est jour après jour. C'est une habitude. Jour après jour, on l'installe à cette porte-là pour qu'il puisse mendier. Et là, on voit Pierre. On voit Pierre fixer, on nous rapporte que les deux apôtres fixèrent le regard sur ce mendiant. Le mendiant les voit venir, il les fixe et en retour, Pierre et Jean fixent cet homme. Dans l'évangile de Luc, nous voyons Pierre qui cherche à s'extirper pendant ce temps douloureux, lors de l'arrestation de Jésus. On fixe le regard sur lui et on dit, mais n'étais-tu pas de celui qui était avec Jésus de Nazareth là? Pierre va se dérober. Je n'étais pas de cela. Je n'étais pas de cela. Et à 3 reprises, Pierre va se dérober. Quel contraste avec ce qui se passe maintenant. Pierre fixe. Il y a ce verbe, on dit regarder, mais jeter un coup d'œil. Mais là, c'est pas le même verbe. C'est celui qui, on s'attarde, on examine. On veut voir ce qui se passe. On prend le temps d'analyser ce qui se passe. On prend le temps de scruter. Et Pierre demande à cet homme-là de les regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a ce changement dans la vie de Pierre.
Il y a ce changement dans la vie de Pierre, mais quel est ce changement? Jésus n'a pas laissé Pierre après le reniement seul. Quand Jésus est ressuscité, Pierre aussi était abattu. Pierre aussi était comme paralysé. Sa faute l'a éloigné de son sauveur. Certainement pensait-il que plus rien ne pouvait le récupérer. Mais Jésus va vers lui avec cette fameuse question que nous connaissons. Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus cherche là à réhabiliter Pierre devant les autres disciples. Ceux qui ont su qu'il a renié. Mais Jésus cherche non pas à passer sous silence la faute de Pierre. La faute est là, oui. Mais Jésus, par amour, va chercher son disciple. Et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il lui donne cette charge. Paie mes brebis. Et l'amour de Christ en Pierre. La confiance que Dieu, que Christ lui témoigne. Parce que c'est une charge. Paie mes brebis. Et ça, en dépit de ta faute, en dépit de ton reniement, moi, je ne te rejette pas. Et Pierre a cette démarche de repentance. Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre le fougueux, Pierre qui n'hésite pas à se dire, mais Seigneur, si c'est toi, je veux marcher sur les eaux. Pierre, il est comme ça, il veut aller. Mais c'était le Pierre aussi qui, son caractère, devait être épuré. Parce qu'il avait des pensées parfois d'homme. Quand Jésus lui dit, je dois aller à la croix, il dit, non Seigneur. Et le Seigneur a ces mots très durs pour arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il venait de faire la déclaration, tu es le Messie. Cette pensée-là venait de Dieu. Et là, il y a ce revirement où, non, ce que tu dis là, maintenant, cela ne vient pas de Dieu. Pierre était ce disciple-là. Et il me semble que la vie de Pierre, pour nous, elle peut être différente. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de m'attarder sur lui. Parce qu'elle ressemble un peu à notre vie. Elle ressemble un peu à notre vie. Parfois, par nos comportements, waouh, Jésus est vivant, Jésus est tué, le Fils de Dieu. Mais parfois, on a des comportements qui renient. Mais Jésus ne nous rejette pas. Jésus ne nous rejette pas. Mais je pense que c'est une étape aussi vers la maturité dans la vie du disciple. De recevoir parfois ces belles claques. Tous, je pense, à un certain moment de nos vies, nous avons connu de grandes désillusions. Vous avez dit, mais comment ai-je pu faire ça? Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que j'ai donné ma vie à Dieu? Comment ai-je pu agir comme ça? J'ai des exemples dans ma tête, mais sur moi-même. Ce n'était pas glorieux. Et je me rappelle à l'université, ce temps difficile de ma vie, où certains de mes camarades ont dit, ah, lui qui priait, et oui, j'ai connu le fond. Mais bénissons l'Éternel, si c'était moi, j'étais, ok, c'était fini. Mais Dieu a voulu, le plan de Dieu était différent. Et bon nombre de personnes, nous tous qui sommes là, nous pouvons voir certaines étapes de nos vies, où est-ce que Dieu est venu nous relever. Ne reste pas à cette étape. M'aimes-tu? Cette question est là aussi. M'aimes-tu? Mais il faut que Dieu épure ce caractère d'homme, qui veut faire des choses par eux-mêmes. Et Dieu veut que nous fassions les choses comme lui, il les veut. Et quand Dieu transforme la vie de Pierre, il y a le Saint-Esprit, cet épisode, acte 2, où le Saint-Esprit vient, descend sur les apôtres, et on voit qu'il il y a un courage en plus qui est là. Le Pierre téméraire est toujours aussi téméraire, mais avec là, la puissance de Dieu. Pierre a compris la leçon. Je ne suis rien. Pierre, il a compris. Là où il voulait être un peu fougueux, c'est lui qui a compris. Non, mais Pierre, là, il a compris quelque chose. Un déclic. L'amour de Dieu a fait que Pierre... Ok. Il faut que le regard change. Le regard de Pierre change. Cette transformation de Pierre, maintenant, elle est tangible, elle est visible. Et il en va de même aussi pour l'apôtre Jean. Dieu désire nous épurer afin de faire de nous ses instruments. Il veut que nous soyons des instruments entre ses mains. La deuxième transformation de cette foi, je vais aborder, c'est le regard du disciple. Le regard de celui qui marche avec Jésus ne regarde plus le monde comme il le regardait avant. Les valeurs de ce monde ne sont plus les mêmes pour celui qui marche avec Christ. Et là, on voit cet infirme qui en dit qui est. Les deux apôtres avancent. Le mendiant voit Pierre et Jean arriver. Il demande l'aumône. Pierre aussi, Pierre et Jean fixent le regard sur lui. Pierre et continue à le regarder attentivement. Il lui dit, regarde-nous. Et peut-être 40 ans, ça ne fait pas 40 ans qu'il est devant ce portail-là, ce portique-là, la belle Salomon. Okay? Ça, peut-être ça ne fait pas longtemps. Enfin, mais une bonne partie de sa vie, je pense, il l'a passé là. À demander l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple, ils allaient prier. Une place stratégique. Je pense que... On peut regarder encore notre société. Ceux qui sont défavorisés cherchent des places stratégiques où il y a du passage. Parfois c'est le métro, parfois au feu rouge. Mais lui, il va au bord du temple. Il se dit, pendant un certain temps, mais ceux qui vont prier en retour, certainement seront touchés par la grâce de Dieu et feront faire preuve de compassion. Il a cet espoir-là, mais il est là aussi en affrontant le mépris. Sa situation déjà fait que certainement il éprouve un mal-être. C'est difficile. Depuis son enfance, il n'a pas connu la joie de courir. Il ne connaît pas ça. Le chapitre 4 nous dit que c'est un homme qui a 40 ans. Quarantaine d'années. C'est une vie, quoi. C'est une vie. Et là, jour après jour, on le dépose là. Peut-être à l'âge où il devient un homme, où c'est, pour ses parents, c'est plus possible de le garder à sa charge. Mais c'était le moment pour lui aussi d'aller travailler. Et même ça, il ne peut pas le faire. Alors la seule chose qui lui reste à faire, c'est de demander l'aumône. Et Pierre et Jean vont lui dire, mais regarde-nous. Certainement, Jésus aussi était déjà passé par cette porte-là. On peut s'imaginer qu'il avait déjà vu Jésus, mais il n'avait pas été guéri. Jésus ne s'était pas arrêté vers lui. Il a entendu certainement dire, mais ce Jésus-là, il a délivré des personnes. Il y a des paralytiques qui marchent. Il y a des boiteux aussi qui marchent. Mais peut-être attendait-il aussi sa délivrance. Mais Jésus est mort. Et peut-être son espoir a été éteint dans l'œuf. Mais Pierre va lui dire, mais regarde-nous. Et certainement pour faire ce travail de mémoire. Certainement tu nous as aperçus avec lui. Mais lui, il ne fait pas ce lien. D'accord? Cet homme ne fait pas ce lien. Lui, il cherche quoi? L'or et l'argent. La semaine dernière, notre frère nous a parlé dessus. Et c'est devenu la valeur ultime. L'or, l'argent. Comment je peux t'aider? Donne-moi de l'argent. Face à la misère, on parle souvent d'argent. C'est l'économie. Et les crises que nous connaissons trouvent souvent leur origine dans ce conflit. Parce que tout le monde veut plus. Et lui, il espère quelque chose pour pouvoir manger, peut-être le jour même. Mais Pierre et Jean ont une autre analyse. Ce dont ils ont besoin dépasse la valeur de l'or et de l'argent. Ils disent, mais je n'ai ni or ni argent. Ça doit certainement lui faire un choc d'entendre ça. Je n'ai ni or ni argent. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Vas-y, mais Pierre regarde la situation, analyse et voit cet homme depuis des années, prisonnier de sa situation. Quand nous regardons le comportement des disciples dans les évangiles, nous voyons que parfois, lorsque je prends l'exemple de l'aveugle-né, les disciples posent à Jésus la question, mais est-ce de sa faute, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Face à de telles situations, il y a ce regard de mépris, il y a ce regard de condamnation. Il est comme ça, c'est parce que son père, sa mère, ils ont péché, et lui-même aussi, certainement, il a mérité. Et parfois, on peut regarder aussi d'autres personnes. Nous, actuellement, on peut regarder aussi des personnes. Merci. Des personnes défavorisées. S'ils sont comme ça, c'est certainement de leur faute. Mais Pierre nous rappelle que lui, son regard a été transformé. Parce que Jésus leur a montré. Là où les sacrificateurs regardaient les lépreux comme impurs, ils n'osaient pas les toucher. Rappelons-nous de cette femme qui a été pendant 18 ans atteinte de cette perte de sang. Et je dis, mais on ne pouvait pas la toucher parce que ça rendait impur. Mais Jésus... Et généralement, on entend Jésus lui dire « Fille, fils d'Abraham ». Ceux qui étaient exclus du culte, Jésus va les toucher et les appelle « Fille et fils d'Abraham », opérant un changement dans leur vie, les réconciliant avec Dieu. Et je crois que c'est ce regard nouveau que Pierre et Jean ont, modelé par le regard de Dieu pour l'humanité en souffrance. Nous pouvons regarder le monde et dire, oh, ben, ça va mal, mais il faut donner sans rien faire. On peut les regarder comme ça. On peut aussi regarder le monde et se dire, mais j'aurais voulu t'aider, mais je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas t'aider parce que... Mais Pierre... Les apôtres, là, ils ont conscience qu'ils ont reçu quelque chose de plus grand que l'or et l'argent. Jésus leur a fait un cadeau qui est plus grand que l'or et l'argent. C'est un trésor qui se partage, mais lorsqu'on le partage, on ne s'appauvrit pas. Au contraire, on s'enrichit. Lorsqu'on le partage, on ne s'appauvrit pas. On enrichit l'autre et on s'enrichit. Alors, conscient de ça, Paul lui dit... Pierre lui dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et on voit Pierre qui, à cette parole de foi, tend la main et agit également. Et tient la main, cet homme aussi l'accepte. Et on voit cet homme debout sur ses jambes, cheville. Les jambes sont affermées et on le voit sauter. Il y a quelque chose, il y a une opération qui s'est faite là. Il y a une opération qui s'est faite là. Celui qui n'avait plus le doigt, qui ne pouvait pas rentrer dans le parvis du temple, le voilà subitement. Oh, il est dans le parvis, il est dans le temple. Nous avons ce don que Dieu a placé en nous. Nous ne sommes pas appelés à être des... comme Pierre. Pierre est unique à l'Église. Mais nous sommes uniques. Mais à chacun, Dieu a donné des dons comme il le veut. Comme il le veut, avec la personnalité de tout chacun. Pour qu'on puisse servir sa gloire. Je vois cet homme qui attire maintenant l'attention de tout un chacun. Cet homme qui, le regard de disciple du Christ, voit que Dieu peut faire autre chose que donner l'or et l'argent, mais donner la vie éternelle. Et on voit la vie d'un homme transformé. Ses chaînes sont brisées. Ses chaînes sont brisées. On le voit sauter, louant Dieu. Ce regard rempli de compassion vaut plus que l'or et l'argent. Mais cette communication de cette grâce de Dieu, la guérison dans le nom de Jésus. Mais cet homme est guéri physiquement. Mais en le voyant, on comprend aussi qu'il est guéri intérieurement, réconcilié avec son Dieu. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et comme cela n'a pas de prix, Dieu nous a donné ce trésor qui n'a pas de prix. Le Saint-Esprit en nous. Et lorsqu'on voit cet homme dans le temple, arriver dans le temple, ben, ça interroge. De telles choses s'interrogent. Et on voit que cette foi-là a la capacité de transformer le monde qui nous entoure. La foi a cette capacité de transformer le monde qui nous entoure. Elle a transformé la vie de celui qui était prisonnier captif de son mal pendant plus de 40 ans, lui donnant une opportunité nouvelle. Il est libéré. Maintenant, il peut marcher, peut aller venir, mais aussi sans devoir mendier. C'est un homme qui retrouve sa dignité d'homme. Il voit les perspectives qui s'ouvrent à lui dans cette vie-là. N'oublions pas que cela ne vient pas, que ce n'est pas quelque chose qu'il a mérité, mais c'est un don de Dieu. Cette grâce, elle vient de Dieu. Alors il proclame les louanges de Dieu dans le temple. Et on voit que d'autres personnes s'interrogent sur ce qui se passe. On voit que, dans la suite, comme je l'ai dit, Pierre dit, ce n'est pas de mon fait, mais c'est la foi dans le nom de Jésus. Il dit, ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Pas au nom de Pierre, pas au nom de Jean, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. D'accord? Et on a cet épisode où certains l'ont cru et les esprits malins lui ont répondu, Paul, on le connaît, Jésus-Christ, on le connaît, mais toi, je ne te connais pas. Et l'ont roué de coups. Donc, on comprend bien que ce n'est pas une formule magique, le nom de Jésus. Ce dont il est question là, dans ces deux faits, on voit que Pierre, les apôtres, sont entrés dans une intimité un peu plus profonde avec leur Seigneur. Croire en Jésus, c'est aussi le côtoyer. Ils l'ont côtoyé pendant 3 ans. Mais ils ont vu aussi que ce que Jésus dit dans leur vie, cela s'accomplit. Jésus leur avait dit, vous ne serez pas tout seul, vous recevrez le Saint-Esprit, et cela s'est accompli. Malgré leurs échecs, qu'on relate dans les évangiles, on voit des hommes, ce ne sont pas des surhommes, en Jésus, faire des choses merveilleuses. L'intimité avec Jésus. Cette foi que nous voulons, nous aimerions être comme eux. Le secret, c'est l'intimité avec Jésus. Passer du temps dans sa présence. Et comme je le dis, nous ne sommes pas tous pires. On ne va pas prêcher et avoir 3000 hommes, 3000 âmes qui se convertissent. Mais Jésus a une autre méthode avec nous parce que nous sommes tous uniques pour lui. Et je bénis Dieu pour cette église. Je bénis Dieu pour cette église. On voit des dons qui se manifestent. Mais aussi, il faut... On s'encourage à aller plus loin. le nombre de passages de personnes qui viennent ici. Les encouragements, je vois, hier nous étions avec les jeunes et j'avoue que j'étais encouragé par eux. Encouragé par eux. Il y a des choses qui sont là, tu vois, peut-être en latence, mais on voit que Dieu agit dans cette assemblée. Mais ça se passe comment? Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent et qui servent avec ce que Dieu leur a donné, dans la simplicité. Et peut-être, on a du mal à donner ce qu'on a, parce qu'on ne connaît pas ce qu'on a. On peut chanter souvent, nous sommes enfants de Dieu, héritiers, mais cela a une réalité qui se rattache au fait d'être héritier de Dieu, d'être enfant de Dieu. Dieu a posé un trésor dans nos vies. Peut-être c'est celui de la libéralité, mais peut-être aussi c'est celui de l'hospitalité. Peut-être c'est celui de s'occuper des enfants, peut-être c'est celui d'être un pasteur, de prendre soin des brebis. Pas forcément avoir le verbe pour 3000 âmes, mais en tout cas ceux qui sont à l'intérieur, il y a ce regard attentif et je bénis l'Éternel d'avoir rencontré un tel homme comme le pasteur. Moi qui suis en formation, ça forme. Voir quelqu'un attentif et pendant 3 ans ici, on voit l'évolution. Je dis, mais Seigneur, merci. La grandeur de l'Église, ce n'est pas ça sa force. La richesse de l'Église, ce n'est pas sa force. C'est pas l'offrande qui fait la force de l'Église. C'est pas la taille de l'Église qui fait la force de l'Église. Mais je crois que ce sont les dons que Dieu a mis dans son assemblée qui font la richesse de l'Assemblée. Ce sont les dons que Dieu a placés au milieu de nous qui font la force de nos assemblées. De l'autre côté, il y a des mères, il y a des jeunes filles, des femmes qui prennent soin des enfants à côté. Mais ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ça nous enrichit. Mais le but non plus n'est pas de rester entre nous et de voir un peu plus loin, de voir par ce qui se passe à l'extérieur, quelles sont les réponses que nous pouvons aussi amener. Être des chrétiens authentiques. Nous l'avons entendu. Je veux être un chrétien authentique de tout mon cœur. Être ces vitrines. Nous voulons être ces vitrines du royaume de Dieu. Nous portons en nous un message vital. Nous portons en nous un message capital. Le monde a besoin de connaître que Jésus sauve encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Dans la suite, nous voyons que l'Évangile, Pierre va saisir cette occasion et proclamer l'Évangile à une foule rassemblée. Nos dons, nos capacités, ce que Dieu a mis en nous, doivent servir à témoigner de l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à entrer dans cette dimension pour l'Église. Mais que chacun individuellement, que nous puissions vraiment chercher l'intimité avec Dieu, parce que c'est là que ça révèle qui nous sommes. Mais aussi en nous mettant au travail, déjà dans l'Assemblée. Commençons par notre Jérusalem. Dans l'Assemblée. Et peut-être après élargir à nos voisins des services simples. Une discussion simple. Mais que Dieu puisse, au moment donné, à l'instant T, par l'écoute du Saint-Esprit, nous donner ces opportunités à pouvoir témoigner de Jésus. Amen.
Je vous invite à tenir debout et nous allons prier, si vous le souhaitez.
Seigneur, merci encore pour ta grâce. C'est toi qui as vu lorsque nous étions encore paralysés par nos péchés, parce que nous ne pouvions nous tourner vers toi. C'est toi qui nous as appelés. Et nous savons que tu l'as fait par des hommes et des femmes, par le biais d'hommes et de femmes qui avaient compris qu'ils étaient en toi et quelle était leur mission première sur cette terre. Alors nous te bénissons encore pour des hommes et des femmes, ces hommes et ces femmes que tu as donnés et qui nous ont transmis ton évangile dans lequel nous croyons. Merci d'avoir transformé nos vies. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, tes enfants. Et nous te prions afin que ces réalités du royaume soient présentes dans nos vies. Que par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, nous puissions être transformés. Que notre foi soit une foi active. Que nous ne contentons pas de recevoir les instructions, mais aussi que nous puissions, par ta grâce et par ta force, par cette main puissante qui agit en nous, pouvoir les mettre en pratique. Et je veux te bénir encore pour cette assemblée. Que tu puisses encore manifester ta grandeur, que tu puisses encore manifester, Seigneur, tes dons, parce que cela vient de toi. Que chacun trouve, nous te prions afin que chacun trouve sa place dans le service, pour t'honorer, pour ton royaume, mais aussi que chacun, que là où il soit, là où tu l'as placé géographiquement, puisse être aussi ses témoins vivants et vrais de ce Dieu qui cherche encore ses hommes, qui cherche des hommes et des femmes, afin de leur dire que d'être réconciliés avec toi. Seigneur, tu fais de nous tes ambassadeurs, tu fais de nous fils et filles de ton royaume afin que nous puissions proclamer l'évangile de paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné et livré à la croix. Et Seigneur, tu as fait des dons par ton esprit aux hommes afin que ton nom soit élevé. Tu as fait don, Seigneur, par ton esprit à chacun, afin que l'Église soit édifiée, mais aussi que le monde voit, que nous soyons ses témoins, que nous soyons sel et lumière dans cette population. Seigneur, donne-nous à briller pour toi. Donne-nous à avoir de la saveur dans ce monde qui perd de sa saveur. Raffermis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen.